Avis de campagne.
Mes chers amis,
nous nous sommes battus dans les luttes, nous nous sommes battus dans les entreprises, nous nous sommes battus dans les champs, partout nous nous battons pour faire reculer le libéralisme. Eh bien, nous continuerons ce
combat. La politique de la vie que j'entends mener.
Nicolas Aretz fait partie de l'équipe du journal de critique et d'expérimentation sociale CQFD.
Allô, allô. Les studios ont été occupés par un commando d'abstentionnistes masqués. Ceux qui se taisent vous parlent. J'ai été un abstentionniste joyeux et décontracté. Ni dogmatique, ni complexé. Avoir voté Mitterrand en 1981, pour qu'advienne ensuite la sombre décennie des Golden Boys et de l'affairisme systématisé, m'a durablement guéri de toute illusion citoyenne. Aujourd'hui, j'ai 1000 raisons de plus pour aller me promener dans la cohue des rues marseillaises plutôt que de m'isoler dans un confessionnal laïque et républicain. Et pourtant, plus qu'auparavant, je me sens concerné par ce qui se trame dans cette campagne électorale. Peut-être parce que je suis le père d'une petite fille de 2 ans et demi. Voir nos législateurs débattre sans rougir, de mettre en place des mécanismes de détection des comportements déviants dès la maternelle me rend fou de rage. Et quel moyen d'exprimer cette colère ? J'ai l'impression, quand je tombe sur leur discours, d'être en présence d'un grand vide menaçant. Rien d'essentiel n'est dit là, mais tout semble avoir déjà été dit ailleurs, déjà décidé, par avance. On ne dit rien d'essentiel pour ne froisser personne, mais le chemin est déjà tracé. Champions de l'hypnose, ils nous demandent de leur faire confiance. 4 dates me reviennent en mémoire dès qu'on me parle de démocratie et d'élections. Le 2 juin 1992, les Danois votent non au traité de Maastricht par une courte majorité. 1 an plus tard, on leur fait voter une version expurgée du traité. Qui a décidé de la validité du premier scrutin ? De l'invalidité plutôt du premier scrutin ? Le non était-il jugé illégal ? Obscène ? Allait-on voter autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne réponse du peuple souverain ? C'est bien ce qu'ont compris les Danois. La 2e fois, ils ont voté oui, là où on leur avait dit de faire. 7 juin 2001, 65% d'abstention, 54% de non en Irlande contre le traité de Nice, dont l'acceptation était présentée comme un préalable indispensable à l'adhésion à l'Union européenne. Le Premier ministre, en colère, déclara qu'il n'y avait pas de renégociation possible pour un traité si âprement négocié. Là aussi, le message est bien reçu. Les Irlandais sont convoqués 2e fois. Ils votent oui, sans doute pour ne pas avoir à voter 3e fois. 2 mai 2002. Tout le monde se souvient du 21 avril, mais la véritable arnaque survient le 2 mai. Comme un seul homme, le bon peuple de gauche se reporte sur Chirac contre Le Pen. C'est le vote républicain. Mieux vaut l'escroc que le facho. Avec 82% de voix républicaines en sa faveur, on aurait imaginé un Chirac œcuménique, modeste, se la jouant centriste, modéré, à l'écoute de ceux qui l'ont voté. Mais pas du tout. Chirac profite de son écrasante majorité pour imposer sa politique de droite, plus la politique d'extrême droite de son supposé adversaire. Avec les lois Perben et Sarkozy, Le Pen peut se réjouir d'avoir perdu. 4e date, 29 mai 2005. Référendum sur la Constitution européenne. Malgré une propagande pour le oui de tous les grands partis et de tous les grands médias, le non gagne. Avec des attitudes de violeurs cyniques, le gouvernement dit au peuple « Même si tu as dit non, ce sera oui ». Les choses étaient bien décidées ailleurs. Aujourd'hui, on nous parle de vote utile, comme on nous a parlé de vote républicain en 2002. Mais il y a un risque à cela. Y céder, c'est déjà entré dans le scénario des États-Unis. Un binôme, une alternance sans changement réel entre démocrates et républicains. Donc, si le modèle vient des États-Unis, il serait bon de se tourner vers eux, examiner ce qui s'y passe. Là-bas, depuis très longtemps déjà, l'abstention est écrasante et majoritaire. Cela veut-il dire que les Américains ne veulent plus être gouvernés ? Est-ce que cela veut dire que la Maison-Blanche, un jour, va se dissoudre dans ce grand silence désapprobateur, indifférent et rageur ?